Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro qui est là pour cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Avril, ben oui, bon 1er avril, bon poisson d'avril, qui est également ce mois, celui de l'autisme. Donc, un moment pour nous assez privilégié pour sensibiliser bien sûr, la population aux multiples facettes de l'autisme, mais aussi un moment pour promouvoir les talents de ces personnes et informer les différents milieux, que ce soit les milieux scolaires ou professionnels. Et en ce sens, la Fédération québécoise de l'autisme lancera demain 3 campagnes de sensibilisation pour dresser un portrait plus juste de l'autisme et aussi s'éloigner des clichés, des tabous. Et j'en parle en deuxième partie d'émission avec Annick Lavaugier. Mais d'abord, parlons bonheur, qui est à mon sens un terme plutôt... Le bonheur, c'est difficile à définir parce que j'ai l'impression que chaque personne a sa propre perception, sa propre vision du bonheur. Et pour certains, le bonheur, c'est inaccessible. C'est quelque chose qui est complexe, qui est éphémère. On ne sait pas trop quand il se pointe le bout du nez, quand il disparaît. Et pour d'autres, ça devient un choix qui est quotidien et qui se construit de petites choses simples. En quoi être heureux, ça a un impact sur notre santé? C'est ce que l'on découvre à l'instant avec Lucie Mandeville, psychologue, auteure et conférencière. Lucie Mandeville, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Je le disais, vous m'avez entendu, le bonheur difficile à définir, mais est-ce qu'il y a réellement une définition du bonheur?
Bien, c'est autant, je dirais, difficile à définir pour chacun d'entre nous. Ça l'est aussi en science, vraiment. Quand on parle du bonheur en science, on utilise des synonymes et souvent celui qu'on utilise, c'est le bien-être. Je vous dirais que, en gros, si on voulait en donner une seule définition, c'est vraiment un état de bien-être qui est plus profond, je dirais, qu'être bien ou être content. Et ça, on le sait, hein, on en fait l'expérience. Par ailleurs, avec le bonheur, il est possible d'être heureux même si, sur le plan physique, on n'est pas bien.
Mm-hmm.
Ce qui pourrait le différencier du bien-être, là. On peut être malade, on peut être atteint d'un problème de santé mentale ou physique, puis être heureux quand même. Alors, c'est une bonne nouvelle.
Et vous en parlez dans votre plus récent livre « Malade et heureux » avec un point d'interrogation. On y reviendra, bien sûr, un petit peu plus tard lors de cette discussion. Lucie Mandeville, vous vous êtes spécialisée en psychologie positive, qui est une branche de la psychologie qui est plutôt nouvelle. Et ça m'amène à vous demander, est-ce que le bonheur, c'est un concept à la mode? Il me semble qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas autant.
C'est vrai, hein? C'est vrai, je suis très sollicitée de ce temps-ci. Oui, on en parle beaucoup, je dirais, d'un côté, soit on s'intéresse beaucoup au bonheur et de l'autre, on le remet en question. Il y a comme une vogue de bonheur absolu et si on n'est pas heureux, on n'est pas correct, on n'a pas notre place dans la société. Alors, c'est un concept qui est venu avec la survenue du nouveau courant de la psychologie positive. On en a parlé il y a 10 ans de ça aux États-Unis. Et maintenant, c'est présent ici au Québec, en Europe, partout dans le monde, en Asie aussi. Là, on en parle, c'est le concept clé de la psychologie positive. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que depuis toujours en psychologie, on s'est intéressé à la pathologie, à ce qui ne va pas bien chez les gens. Et voilà 10 ans, il y a un homme, un Américain, un chercheur, qui a invité les psychologues à considérer que dans l'expérience humaine, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des forces, des talents, des attitudes qui subsistent et qui aident les gens à traverser les épreuves ou à être heureux dans leur vie. Et ça, c'était un concept. C'est toujours un concept qui est vraiment important.
Mais vous avez soulevé quelque chose d'intéressant, Lucie Mandeville. Si on n'est pas heureux, est-ce que ça fait de nous une mauvaise personne? Est-ce qu'il n'y a pas une dictature du bonheur un petit peu en ce moment?
J'ai le sentiment que c'est comme ça. Un peu comme ça l'était avec la notion de performance. Si on n'est pas performant, on n'a pas notre place dans la société. Et il arrive la même chose avec le concept de bonheur. Je dirais que c'est bien d'être heureux, mais viser le bonheur, même souvent on dit, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on va viser, mais dont on profite quand il est présent. Alors, il faut vraiment faire attention pour pas commencer à se comparer à ceux qui sont plus heureux que soi, un peu comme on se compare aux gens qui sont plus riches que soi. Soit plus intelligent que soi. C'est vraiment pas une question de performance au bonheur, je dirais, mais plus d'expérience heureuse.
Oui, puis en même temps, et vous en parlez de façon assez concrète dans vos trois publications, le bonheur, ça se construit de petites choses, par des attitudes, vous donnez aussi une panoplie de trucs. Est-ce que ça débute pas le fait d'être heureux par un choix personnel aussi?
Oui, on dit même qu'on le mesure. Tu sais, on dit que 50% des sources de bonheur viennent de nos gènes. Bon, ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, de la génétique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a hérité de cette attitude à être heureux de nos ancêtres. Mais, et 10% reposent sur les circonstances de la vie, les événements. Il y a un 40% qui reste, si on fait le calcul. Et ça concerne les choix et, je dirais, essentiellement les attitudes qu'on a face à la vie. Donc, nos façons de réagir aux événements qui surviennent. Et on a beaucoup, on a du pouvoir là-dessus. On n'a pas de pouvoir sur notre héritage, mais on a du pouvoir sur la manière dont on envisage chaque événement là, qu'on vit.
Oui, 40 % ça devient assez fort dans la balance, surtout lorsque l'on pense que le 10 % en tout cas, ça, c'est mon opinion, le 10 % qui vient des circonstances est tellement aléatoire parce que pour certaines personnes, avoir... par exemple, beaucoup d'argent, ça peut être une source de bonheur, mais aussi de soucis. Donc, ce 10 %-là, il est très variable là, dans la balance. Donc, pour moi, ça donne encore plus d'importance aux 40 % qui nous revient.
Parfait. On peut penser qu'effectivement, 10 % c'est des miettes. C'est sûr qu'il y a des événements qui sont marquants et on va travailler fort pour sortir d'un événement qui a été traumatisant, par exemple. Alors, faut pas nier ça. Ça a une importance, mais même dans l'adversité, je dirais, on voit que les gens sont résilients ou pas selon l'attitude qu'ils ont par rapport à ce qui leur est arrivé.
Et bon, il y a aussi dans cette balance, dans ce 40 %-là, les choix que l'on prend. Et il y a cette attitude que l'on adopte, une attitude qui peut être positive. Vous valorisez beaucoup l'optimisme, Lucie Mandeville.
Oui, oui, parce qu'on dit que c'est l'attitude qui fait la différence entre la détresse et le bonheur. C'est aussi fou que ça, là. On réfère souvent aux pensées positives qu'on a. Et si une personne, on a même fait le calcul qu'il y a un ratio de 3 pour 1, si on a 3 pensées positives pour une pensée négative, on peut être heureux. Mmh. Mais à l'inverse, on serait une personne qui est en détresse. Alors, l'optimiste, ça a été, il y a eu beaucoup de recherches depuis 10 ans sur ces attitudes qui apportent et le bonheur et la santé, là. Et parmi ces attitudes, l'une des plus importantes, c'est l'optimisme. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y a une recherche qui a démontré que les gens optimistes vont même allonger leur vie de 7 à 10 ans.
Wow!
Ouais, c'est énorme et c'est une recherche qui est très connue là, dans ce domaine-là, qui a été faite avec des religieuses. Et on leur a demandé à 20 ans de raconter un peu leur histoire et on a étudié leur récit de vie. Et à 90 ans, il y a une différence énorme dans celles qui survivent et qui avaient manifesté un optimisme à 20 ans. Et on remarque que celles qui étaient déjà très pessimistes, très jeunes, ne survivent pas. C'est aussi grand que ça. Alors, c'est important.
Donc, l'optimisme pèserait autant dans la balance que l'activité physique, que l'alimentation ou d'autres saines habitudes de vie.
Oui, il y a une petite recherche dont j'ai pris connaissance dernièrement et on disait qu'on sait que 30 minutes d'exercice par jour, c'est ce que ça nous prend pour être en santé, en forme. Et on disait que 30 minutes de rire, de fou rire par jour, ça a le double d'effet, du bienfait. Alors, c'est bien pour les gens qui n'aiment pas faire d'exercice. Mais je dis les deux, c'est mieux, là, mais rire, effectivement, on sait rire, être de bonne humeur, la joie, l'optimisme, une vision positive de la vie. Ça a vraiment un effet sur la santé et c'est maintenant mesuré.
Lucie, on apprend également dans votre premier livre « Soyez heureux sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête » que nos attitudes peuvent aussi avoir un impact sur notre santé, en ce sens que si on rumine nos problèmes, par exemple, ben ça peut avoir un impact sur notre santé.
Je crois que moi, je suis à la fois professeure et psychologue et auteure, et je vois dans les clients qui me consultent, les ruminations, c'est probablement ce qui apporte le plus de stress et le plus de douleur psychologique.
Mm-hmm.
Et on peut y mettre beaucoup de temps. Alors, on essaie d'aider les gens à s'en sortir en se disant, c'est un peu comme du conditionnement physique. Quand on se conditionne, on devient musclé. Alors, si on pense beaucoup au négatif dans notre cerveau, qui n'est pas un muscle, mais qu'on peut voir un peu comme un muscle, si on passe beaucoup de temps à se conditionner en pensant à du négatif, bien, le cerveau va devenir plus alerte lorsqu'il y aura une nouvelle circonstance inconnue, à réagir de façon négative. Alors,
ah oui.
On peut renverser ce processus-là en occupant notre esprit à des pensées positives, et on va faire le même genre de conditionnement, mais en activant des régions qui sont associées aux affects positifs.
Est-ce qu'il y a d'autres pièges qui peuvent nous rendre malades?
Je dirais l'absence de plaisir dans la vie. Je pense je parlais de la performance tout à l'heure. Les gens, on est tous tombés un peu dans le panneau de vouloir performer, produire, avoir une vie qui est remplie de plaisir matériel, par exemple, mais pas de plaisir qui dure, de plaisir très éphémère. Et ça fait qu'il reste peu de place, je dirais, aux choses vraiment importantes. Et on dit que dans les choses importantes, il y a les petits plaisirs du quotidien, on en parlait tantôt, mais il y a aussi de s'entourer de gens qui nous aiment, de faire la place à ces contacts sociaux-là qui sont bons pour notre santé, pour notre bien-être. Et je pense que le déséquilibre dans lequel on tombe, parce qu'on fait beaucoup de place au travail, par exemple, à des choses très sérieuses, des tâches, des exigences, ça contribue à la maladie, je dirais. Ouais.
Mm-hmm. Bien sûr, vous donnez aussi plein de trucs hyper concrets pour changer nos attitudes et créer le bonheur, le bien-être autour de soi. Il y en a plusieurs, on ne pourra pas tous les énumérer aujourd'hui, mais un qui m'a bien marqué, en ce sens où vous disiez « changer parfois, c'est un petit peu difficile », mais il y a cet exemple de Normand qui est un vieux garçon et qui y trouve sa vie ordinaire et ennuyante, et vous lui avez demandé de dresser une liste de tout ce qui est l'inverse de lui, de tout ce qui est le contraire de lui, et de changer tranquillement ses habitudes de vie en mettant l'accent sur ce qui est très loin de lui. Et ça fonctionnait. Ça a métamorphosé sa façon de vivre. Je trouvais ça bien intéressant. Et peut-être on entend moins souvent parler de ce genre de trucs-là.
Effectivement, dans mes livres, j'aborde souvent des choses qui sont à la fois simples, tirées du bon sens, mais aussi surprenantes, qui ne cadrent pas du tout avec la psychologie traditionnelle. C'est un peu ma marque de commerce. Et ça fonctionne, puis ça fonctionne de façon rapide et durable. Et dans ce cas-là, on sait qu'un des regrets, je lisais une belle recherche qui a été faite auprès des mourants, des gens en soins palliatifs. Et un des regrets que ces gens ont là, ça a été de rester dans leur vieille pantoufle.
Ouais.
D'avoir peur du changement et de ne pas avoir eu l'audace d'aborder leur vie avec un peu plus de légèreté. Et dans le cas de Normand, c'est un peu ça qu'on propose, de dire, sors un peu de tes schémas habituels, va explorer quelque chose qui est plaisant pour toi, qui est attirant, qui est excitant. Et dans ce cas-là, on le voit qu'il est tout enthousiaste, mais même on l'invite à aller un petit peu plus lentement parce qu'il est en train de transformer sa vie. Alors, c'est trouver l'équilibre entre qu'est-ce que j'ai adopté dans ma vie, mais qui n'est pas connecté à moi, qui est plus connecté aux attentes sociales, aux attentes des autres, et qu'est-ce qui est vraiment authentique, qui vient de moi et qui m'apporte du plaisir. Et à travers cet équilibre-là, je crois qu'on va trouver un meilleur bien-être, un bonheur plus grand, plus durable, plus vrai aussi.
Aussi, quand on avance dans la vie, on se rend compte assez rapidement que le quotidien est parsemé d'embûches, de petits problèmes, de grands problèmes également. Et vous nous amenez à voir que dans nos problèmes ou dans nos défauts, on peut les mettre à profit. Il y a des bonnes choses également.
Oui, bien parfois, on a le sentiment que quand on est dans un processus de croissance ou de thérapie, on a le sentiment qu'il faudrait parfois tout changer de nous. Et cette idée-là fait en sorte que souvent, on va procrastiner parce que c'est très exigeant. Alors, on apprend aux gens que s'ils sont devenus avec une telle personnalité, c'est que ça leur a servi à un moment donné dans leur vie. Alors, par exemple, si les gens se considèrent très exigeants puis ont l'impression qu'il faut qu'ils lâchent prise, puis c'est bien de lâcher prise, mais parfois c'est trop difficile, on va leur permettre de reconnaître que dans l'exigence, dans le perfectionnisme, par exemple, il y a quelque chose de bon qui était utile, qui leur a permis de performer, d'arriver à leur fin, mais c'est pas tout de ça qui est bon. Il y a peut-être des aspects de ce perfectionnisme-là qui ne leur sert plus et qui, contraire, leur nuit. Et on va cibler quelque chose de plus petit en sachant que quand on a des petits objectifs qui sont réalisables, ce qui va arriver, c'est qu'on va être fiers de nous. Mm-hmm. Et en étant fiers, ça va nous aider à avoir confiance vers un changement qui est possible. Tandis que si on vit d'un sentiment d'incompétence, bien, on n'aura pas ce désir-là, cette volonté de changer.
Dans votre dernier livre, Malade et heureux, je voulais absolument y revenir, vous proposez 8 attitudes qui peuvent en fait faire qu'on réagit mieux face à la maladie. En fait, la maladie, c'est quelque chose qui est extrêmement bouleversant. On parlait de problèmes ou d'embûches tantôt. Ça, c'est un gros embûche. Donc, 8 personnalités différentes. Je me suis reconnue dans sociable. Donc, savoir bien m'entourer, l'importance de s'entourer de gens qui peuvent prendre soin de nous. Il y a d'autres personnalités ou attitudes qui peuvent nous aider à passer à travers la maladie.
Oui, tout à fait. Il y en a 8 de nommer. Être optimiste, on en a parlé tout à l'heure. Être rusé, cela est intéressant parce que rusé, c'est de dire qu'on a notre organisme et a des mécanismes naturels qui luttent quotidiennement contre la maladie. Et il s'agit de les connaître et de s'en servir. Alors, on sait que, par exemple, quand on est absorbé dans une activité qui est plaisante, notre corps libère des endorphines ou des endorphines qui ont un effet qui est quasiment une médication naturelle qui va lutter contre les dégâts qui ont été causés par les activités, les préoccupations quotidiennes. On sait maintenant que quand on est absorbé par des activités plaisantes, il y a ce qu'on appelle des cellules tueuses qui vont tuer littéralement les cellules malades dans notre corps. Alors ça, c'est, la ruse, ça n'est une, ça, de pouvoir utiliser ce qu'on connaît en psychologie maintenant et qui peuvent aider les gens qui sont malades. Mais dans ce livre-là, on raconte les histoires de grands malades, mais c'est un livre qui est écrit pour tout le monde, ceux qui sont en santé ou ceux qui veulent aider des gens malades. Là. Je pense aux fervents qui, dans le cas des gens très, très malades, ils ont découvert à travers la maladie une autre perspective de la vie qui fait que quand on n'en a plus pour très long à vivre, on se met à vouloir vivre. C'est vraiment paradoxal. On dirait que ça nous prend ça parfois pour nous réveiller et dire « la vie est importante et je veux en profiter là, jusqu'à la fin ». Cette volonté de vivre, ça l'a parfois pour certaines personnes fait un grand changement dans leur vie. Et même, il y a des témoignages très touchants dans ce livre-là où des gens ont dit les 100 derniers jours de ma vie, par exemple, parce qu'ils étaient atteints d'un cancer incurable, ont été les plus beaux moments de ma vie parce que j'ai vécu ma vie en étant présente, en étant en contact profond avec les gens qui m'entouraient. Alors, c'est de ce genre d'attitude dont je parle dans le dernier livre.
Lucie Mandeville, ça propose aussi, ce livre-là, une alternative à la médecine conventionnelle qui est également importante, bien sûr, mais pour aller ailleurs, pour être plus créatif aussi et pour se rapprocher de la santé sans cesse.
Oui, je dis, quand je fais des présentations sur ce livre-là, je dis que la mission du livre, c'est de créer des ponts entre la médecine et la psychologie, parce que en psychologie, on sait, surtout en psychologie positive, avec ces nouvelles découvertes qu'on fait, on sait des choses qui sont, bon, pas connues en médecine. Et ce livre-là nous amène, je dirais, à mettre toutes les chances de notre côté pour guérir et pour reconquérir la santé. D'ailleurs, une des personnes dont on parle dans le livre, qui est un Fernand, qui était atteint d'un cancer lymphatique, qui est guéri, il disait qu'il a découvert à travers son cheminement dans cette maladie-là que la médecine peut aider à guérir la maladie, mais c'est à nous à reconquérir notre santé. Et ça, on peut le faire, comme on le disait tantôt, entre autres et surtout par les attitudes qu'on a. Et les attitudes, entre autres, face à la maladie ou face aux épreuves qui peuvent nous submerger ou desquels on peut découvrir quelque chose de nouveau dans notre vie qui va nous rendre encore plus forts ou plus sereins.
Mm-hmm. Lucie Mandeville, vous êtes psychologue, auteure de 3 livres publiés aux éditions de l'Homme, conférencière également. Je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que vous en inspirez beaucoup aux autres.
Ben merci et merci à vous pour votre bon travail. C'est vraiment inspirant.
Merci, au revoir. Bonne journée.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Annick Lavogie.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice de projet à la Fédération québécoise de l'autisme. Et là, pour nous parler de ce mois de l'autisme qui commence dès demain, 2 avril, en lançant la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et vous serez là aussi avec, bien sûr, la Fédération québécoise de l'autisme pour lancer 3 campagnes de sensibilisation qui visent à contrer les clichés parce que j'imagine, Annick, que vous en avez... observé, il en existe encore face à l'autisme.
Oui, il existe encore beaucoup de clichés envers les personnes autistes. Je peux en citer quelques-uns. Par exemple, on va souvent dire que soit elles sont toutes déficientes intellectuelles, soit c'est toutes des génies, alors que c'est pas du tout le cas. On va souvent dire que toutes les personnes autistes sont dans leur bulle, alors que c'est pas nécessairement le cas. On va mentionner le fait qu'il y ait une cure pour l'autisme ou que ça passe avec le temps, alors que pas du tout. C'est vraiment un trouble qui reste toute une vie, puis c'est pour ça qu'il y a autant d'adultes que d'enfants. Fait que ça, ce serait comme quelques mythes, et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce mois de l'autisme, 3 campagnes de sensibilisation qui vont vraiment s'adresser à des groupes ciblés au Québec. Mm-hmm. On va cibler le grand public, on va cibler les employeurs et les milieux scolaires, particulièrement le secondaire, pour leur montrer un peu des portraits variés et authentiques de personnes autistes, afin de leur montrer un peu que c'est des personnes uniques comme tout le monde, puis leur montrer un peu leurs forces, leurs talents, puis à travers ça, lutter contre les préjugés dont ils sont encore victimes, malheureusement, et dont ils sont trop victimes pour être vraiment intégrés à la société en ce moment.
Parce que l'un des clichés ou des préjugés pourrait être que les personnes autistes ne peuvent pas travailler, et c'est aussi pour ça que vous vouliez viser les milieux professionnels.
Exactement. Selon l'ONU, actuellement, il y a à peu près 80% des personnes autistes qui ne travailleraient pas, et ce, malgré leurs qualifications. Alors qu'en fait, les personnes autistes, même si elles sont toutes différentes, évidemment, comme je l'ai dit, puis qu'elles n'ont pas toutes les mêmes forces, elles ont quand même certaines forces, par exemple la mémoire des faits, la logique, le souci du détail, le respect des règles. De façon générale, c'est des personnes très fiables, ponctuelles et assidues. Fait que c'est des employés qui, s'ils sont bien accompagnés, peuvent faire exactement le même travail que n'importe qui d'autre, en fait. C'est juste que elles ne travaillent pas parce qu'elles n'ont pas nécessairement le soutien nécessaire pour chercher, trouver et garder un emploi. Donc, à travers notre campagne, on essaye d'atteindre les employeurs pour leur montrer des portraits d'intégration réussis de personnes autistes dans leur milieu de travail, les inciter ainsi à se renseigner sur l'autisme. Et après, par la suite, nous, on reste toujours évidemment à leur disposition des employeurs pour s'ils ont besoin de davantage de renseignements ou d'outils pour intégrer les personnes autistes dans leur équipe.
C'est quoi la réception jusqu'à maintenant? Bien sûr, il est peut-être un petit peu tôt pour s'exprimer là-dessus, mais comment ils réagissent, les employeurs, face à cette action?
Pour cette action-là, il est un peu tôt. On vient de lancer ça aujourd'hui, puis ça va, c'est vraiment quelque chose qui va se faire sur les 4 prochaines semaines. Chaque semaine, on va envoyer un portrait différent à tous les employeurs à l'échelle du Québec. Puis à côté de ça, nos associations vont relayer, eux, dans leur milieu, ces portraits-là aussi, puis sensibiliser les employeurs qui sont plus proches d'eux. Donc là, je peux pas vraiment vous donner une réaction, mais je sais qu'il y a quand même des programmes qui existent puis qui se développent au fur et à mesure. On a des employeurs qui nous appellent ou qui nous demandent de l'information puis qui ont besoin d'outils. Fait que nous, on crée aussi des outils pour eux, pour les aider à intégrer des personnes autistes dans leurs équipes, comment en parler aux collègues, comment créer des horaires de travail ou des aménagements particuliers.
Et puis, bon, l'une des campagnes aussi vise les milieux scolaires, entre autres, parce que les personnes autistes vivent encore beaucoup, les jeunes, beaucoup d'intimidation.
Oui, exactement. Excusez-moi. Il y a beaucoup plus de personnes, d'élèves autistes qui sont intimidés que d'élèves, je dirais, neurotypiques, c'est-à-dire qui ne sont pas autistes. Et en fait, c'est quand même vraiment un problème. Excusez-moi, j'ai perdu mes mots.
C'est pas grave.
Mais oui, c'est quelque chose qui touche beaucoup les élèves autistes, malheureusement. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, dans notre campagne, ce qu'on a fait, on a créé des feuillets de sensibilisation, des choses très, très simples, et à destination des professeurs et à destination des élèves, pour leur expliquer un peu en quelques mots, de manière très simple, c'est quoi l'autisme, et aussi de leur expliquer c'est quoi l'intimidation, puis pourquoi les élèves autistes sont un peu plus sensibles à l'intimidation et pourquoi il faut y être particulièrement attentif. Par exemple, on sait que les personnes autistes, vu qu'elles ont un comportement différent, elles ont tendance à être beaucoup plus facilement stigmatisées.
Ouais.
Et leurs pères, que ce soit les élèves ou parfois le personnel scolaire, ils manquent d'informations sur l'autisme. Donc, il y a une certaine discrimination et il peut y avoir un certain manque de soutien. Donc c'est un peu ça, nos feuillets. On essaie de présenter l'autisme, mais aussi comment intégrer une personne autiste dans une classe. Puis notre campagne, ça vise particulièrement le milieu des classes secondaires.
Ouais. Et bien sûr, cette inclusion aura un impact fort positif sur les personnes autistes. Je veux, parce que le temps file, Annick, parler de ce mouvement « Faites briller en bleu » qui invite les gens à décorer leur monument ou leur édifice en bleu demain pour la journée de sensibilisation mondiale à l'autisme.
Oui, en fait, pendant une journée, on incite les gens, les entreprises à s'illuminer en bleu pour témoigner de leur soutien aux personnes autistes et à leurs familles. En fait, l'idée, c'est de rendre notre cause visible partout dans le monde. C'est d'inciter les gens à en parler, à comprendre ce que c'est que l'autisme et à accepter les différences. À titre d'exemple, en 2014, il y a à peu près 3000 bâtiments qui ont été illuminés partout dans le monde, ce qui est quand même énorme. Nous, on développe chaque année de plus en plus de partenariats. À Montréal, par exemple, on va avoir l'aéroport de Montréal qui va être illuminé en bleu, le complexe des jardins, le marché Bon Secours, la tour du parc olympique. Chaque année, on développe de plus en plus et on incite en plus les individus, les particuliers à porter du bleu, à se maquiller en bleu, etc. Puis l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention des gens qui ne savent pas pourquoi on est tout bleu à parler, à poser des questions puis à s'ouvrir de cette façon-là.
Et puis, bien sûr, pour en savoir davantage, on peut visiter votre site www.autisme.qc.ca pour connaître vos services et toutes les activités aussi qui auront lieu pendant ce mois de l'autisme.
Exactement.
Un très bon mois à vous, Annick Lavogie. Merci beaucoup
de m'avoir reçu. Au revoir.
Au revoir. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.